Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongeons dans les zones d'ombre des accords économiques en RDC. Aujourd'hui, on décortique les 20 et 1 milliard promis par le Qatar. Miracle pour notre économie ou énième mirage?
Pour nourrir notre réflexion, on s'appuie sur l'analyse percutante de Joe M. Sekimonio. Attention, ça risque de bousculer quelques certitudes.
Commençons par le point de départ. Ces 20 et 1 milliard USD font rêver, mais Joe nous rappelle que ce sont surtout des intentions d'investissement, pas un chèque qu'on peut encaisser demain.
Et le problème, c'est pas le Qatar en soi, mais l'architecture opaque des deals, négociée derrière des portes closes, sans contrôle citoyen, avec des retombées quasi nulles pour le peuple congolais.
Joe insiste, nous avons déjà vu ce film trop de fois. Les grandes annonces, les conférences de presse, les poignées de main, puis le silence des chantiers.
Oui, comme avec le port en eau profonde de Banana confié à DP World, sur le papier, un projet stratégique, en réalité, contrat opaque, contrôle étranger, zéro transfert de technologie.
Joe soulève un détail troublant. Au lieu de la poignée de main avec Madame la Première ministre, il était plus rassurant de voir sur la photo cet échange et ces sourires partagés uniquement avec les barons de la Fédération des entreprises du Congo.
C'est important pour, car comme il le souligne, d'autant plus que la stratégie des Qataris ne se tourne pas vers le secteur public, mais cible principalement des projets à dominante privée. Ça sent le deal calibré pour contourner l'économie nationale.
Ce l'étonne, c'est ce contraste. Ceux qui subissent le plus ces accords sont souvent les premiers à fêter l'arrivée des milliards. Comment expliquer ce syndrome?
C'est fou, hein? On a tellement soif de solutions qu'on célèbre la moindre annonce. Mais dès que quelqu'un ose demander des comptes ou réclamer plus de transparence, il se fait traiter d'ennemi du progrès.
Il y a un côté presque tragique à voir les gens défendre des projets dont ils ne connaissent même pas les clauses. Tu penses que c'est de la naïveté ou qu'il y a une sorte de fatigue collective?
Un peu les deux, je crois. La lassitude joue, mais aussi cette idée qu'on n'a pas vraiment le choix. Les promesses de développement font rêver, même si on a déjà vu 1000 fois que ça mène nulle part.
Une phrase forte de Joe, les morts sont des clients vivants pour les croque-morts. Et il rajoute que dans chaque conflit, certains vendent des sparadraps, d'autres des fusils. Le Qatar ne cherche pas à pacifier la région, il cherche à monétiser les fractures.
Rappelle-toi ce passage. Kinshasa, courtise Trump, lui offre les minerais stratégiques, espérant un soutien militaire. Au lieu de cela, Washington les renvoie frapper à la porte de Doha. Et le Qatar saute sur l'occasion. Pourquoi pas nous? Une stratégie froide, méthodique, sans philanthropie.
Joe rappelle que Doha est déjà solidement implanté au Rwanda. Bugesera, Rwandair, ils contrôlent les infrastructures clés. Et leur rôle de médiateur diplomatique entre Kinshasa et Kigali leur a donné la porte d'entrée parfaite en RDC. Plus ils deviennent indispensables, plus ils verrouillent leur position.
Sekimonio est clair, le Qatar n'a aucun intérêt à éteindre le brasier. Tant que les tensions restent contrôlées, elles servent leurs ambitions économiques. C'est cynique mais logique, l'argent suit les failles. Doha a choisi de transformer les conflits en opportunités d'expansion.
Et c'est pas limité à la RDC. Joe cite l'Angola, le Mozambique, la Zambie, le Botswana. Les montants promis se répètent, 20 milliards ici, 19 là-bas.
Même recette, même discours, même objectif. Sécuriser des leviers stratégiques pour générer des rentes. Pas pour développer les économies locales.
Le Qatar anticipe l'après-pétrole et gaz. Comme avec le caoutchouc de Léopold II ou les diamants synthétiques, ils savent que rien n'est éternel.
Doha investit donc dans le futur, influence, ancrage stratégique, achat de temps et de pouvoir. Rien de personnel, juste une logique de survie.
Là où ça fait mal à Joe, c'est que même pour lancer une simple production de papier toilette ou de cure-dents, il faut passer par le président de la République. Dans un pays où chaque projet doit être validé au sommet de l'État, le signal envoyé aux investisseurs est désastreux. L'économie n'est plus guidée par les caprices du marché, mais par les réseaux, les relations et la proximité du pouvoir.
Il donne son propre exemple et dit « J'ai moi-même connu la frustration d'un système où chaque investissement se transforme en parcours d'obstacles. J'avais obtenu les autorisations officielles pour lancer une chaîne de télévision et payer les premières taxes. J'avais acheté le matériel, formé le personnel et tout préparé. On m'a baladé à Kinshasa avant de m'assurer que je pouvais commencer à émettre à Goma. J'ai déplacé les équipements, investi du temps, de l'énergie et de l'argent pour finir bloqué sans aucune explication sensée. Le plus absurde, c'est qu'une enquête interne du ministère des médias révélait qu'à l'époque, plus de 90% des médias déjà en activité diffusaient sans aucun document en règle. Même un passage par la Napi, censé être la porte d'entrée des investisseurs, s'est avéré une perte de temps monumentale.
Joe dénonce notre naïveté, il n'y a pas de chèque magique. Ces milliards ne sont pas garantis et s'ils se concrétisent, la majorité repartira à Doha.
Quelques élites locales ramasseront les miettes, tandis que la population attendra des retombées qui ne viendront jamais.
Jeudi, partout dans le monde, d'immenses masses de capitaux circulent, s'ennuient et cherchent des opportunités pour se placer. L'argent existe, il frappe aux portes, mais il va là où les conditions sont claires, fiables et compétitives. Et ajoute le fait qu'au XXIe siècle, on n'a plus besoin d'aller jusqu'à Silicon Valley pour acheter des actions, Coca-Cola ou Microsoft.
Le véritable problème n'est donc pas le manque de capitaux, mais l'absence de canaux solides, transparents et attractifs pour les faire venir à nous. Tant que ces structures n'existeront pas, nous resterons dépendants des promesses venues d'ailleurs et spectateurs des décisions prises sans nous.
La vraie richesse ne viendra pas des milliards promis par des prédateurs, mais de notre capacité à produire, innover et maîtriser le coût de notre propre futur.
C'est aux commerçants, entrepreneurs, innovateurs, ingénieurs et chercheurs congolais de créer des opportunités concrètes et de bâtir des passerelles d'investissement direct pour que l'argent, qu'il soit local ou étranger, se fructifie en RDC.
Le jour où les Congolais en RDC disposeront de ces leviers et de ces outils, ce ne seront plus les Qataris, les Chinois ou les Américains qui fixeront les règles. Ce sera l'économie congolaise qui donnera le tempo, définira les conditions et capturera enfin la vraie valeur de l'avenir de la nation.
En attendant, méfions-nous des mirages déguisés en miracles. Parce qu'à chaque fois, l'histoire se répète et ce n'est jamais nous qui gagnons.